Amen. Bonjour à tous. Alors, quand j'ai vu Jean-Marc qui faisait la présidence avec sa guitare, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais apporter ? Et puis pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que même avec un triangle, je serais capable de faire une fausse note. Alors, je pense que pour le bien-être des oreilles de chacun, il vaut mieux que ce soit... Vous n'aurez que moi ce matin, désolé. Plus sérieusement, dans l'histoire de l'Église, Dieu a suscité à diverses occasions des réveils. Ces réveils étaient marqués, étaient caractérisés par une piété plus intense, plus forte parmi son peuple, par une foi renouvelée aussi. On a eu de nombreux exemples dans l'histoire de ces exemples de réveils, notamment par exemple en 1517 avec Luther et la Réforme. On a redécouvert quelque part que le salut n'était pas une question d'œuvre, mais une question de foi et de grâce. De grands réveils aux États-Unis se sont produits dans les années 1730 avec George Whitefield et Jonathan Edwards. Et plus proche de nous, en tout cas géographiquement, dans les Hautes-Alpes, avec Félix Neff en 1820. Certains se sont interrogés pour savoir quels étaient les points communs entre ces différents réveils, comme s'il y avait peut-être une formule magique, entre guillemets, pour provoquer un réveil. Il n'y a pas de formule, bien sûr. Mais il est quand même intéressant de voir, de remarquer qu'un des points communs entre ces différents réveils, les trois que je viens de citer, puis aussi d'autres, tient à une nouvelle écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est remise au centre des vies et aussi à l'effet que cela peut provoquer dans les vies. La Bible ne dit pas autre chose. On trouve aussi dans l'Ancien Testament de nombreux réveils. Des moments où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, renouvelle sa confiance envers Dieu. Des moments où le peuple de Dieu redevient véritablement ce peuple obéissant, ayant foi en son Dieu unique. L'un des plus beaux réveils qu'on trouve dans l'Ancien Testament, à mes yeux en tout cas, est décrit dans Néhémie au chapitre 8. Et c'est ce passage que je vous invite à lire et à étudier ce matin ensemble. Dans ce passage, Esdras, dont on voit une peinture, bien sûr ce n'est pas une photographie, une peinture de Gustave Doré, Esdras présente la loi au peuple de Dieu. Ce peuple va redécouvrir la loi et il va être renouvelé par la lecture de cette loi. Mais avant juste de nous plonger dans cette lecture de ce passage, en Néhémie chapitre 8, je crois qu'il est bon de rappeler juste un peu le contexte, c'est toujours intéressant. Si vous regardez un peu ce graphe chronologique, en 586, donc au bout à gauche, c'est là où Dieu juge le peuple d'Israël. Israël, pendant 4 siècles, a vécu dans la royauté depuis Saül, mais malheureusement Israël a failli, Israël s'est rebellé contre Dieu. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dieu juge. À travers Nabuchodonosor et l'Empire babylonien, Jérusalem est détruite et la majorité du peuple juif est envoyée en exil. Quelques années plus tard, en 538, l'Empire perse, avec Cyrus à sa tête, renverse l'Empire babylonien et devient la grande puissance du Moyen-Orient à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui est important, un changement historique qui est important pour le peuple d'Israël, parce que l'Empire perse va permettre, en tout cas Cyrus va permettre au peuple d'Israël de retourner en Israël. Et ce retour va se faire en 3 phases distinctes. D'abord, 5000 hommes sous la conduite de Zorobabel retournent en Israël avec l'objectif de reconstruire le temple qui avait été détruit en grande partie. C'est l'objet des 6 premiers chapitres du livre d'Esdras. Plus tard, en 458 avant Jésus-Christ, Esdras, donc lui-même, qui a donné le nom à ce livre biblique, retourne lui aussi au pays. Lui, plus avec l'idée d'une restauration spirituelle au sein du peuple, de renouveler le culte. Le temple était reconstruit, maintenant il était temps de renouveler le culte du Dieu unique. C'est l'objet des 4 derniers chapitres du livre d'Esdras, du chapitre 7 au chapitre 10. Et enfin, 12 ans plus tard, ce qui nous concerne ce matin, en 445 avant Jésus-Christ, Néhémie, un haut fonctionnaire aussi au sein de la cour impériale, est autorisé lui aussi à retourner à Jérusalem avec une autre mission, lui une troisième différente, celle de reconstruire la muraille entourant Jérusalem qui servait à protéger cette ville des attaques. Néhémie va réussir cette mission de reconstruction de manière quasi miraculeuse. La muraille est reconstruite en à peine 52 jours, malgré l'opposition, ce qui fait même dire aux adversaires, aux propres adversaires de Néhémie, en Néhémie 6, verset 16, qu'un tel ouvrage n'avait pas pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de Dieu. Même les adversaires de Néhémie ont dû reconnaître que Dieu avait poussé Néhémie dans son action, il l'avait aidé pour permettre cette reconstruction. Mais la mission de Néhémie n'était pas complètement terminée. La reconstruction matérielle de la muraille entourant Jérusalem a été faite. Maintenant, il s'agit de faire une reconstruction spirituelle, la reconstruction spirituelle du peuple de Dieu. Et cette reconstruction, on la retrouve en Néhémie 8. Et cette reconstruction a pour base, pour cause principale, une écoute renouvelée de la loi de Dieu qui va déboucher vraiment sur un rétablissement spirituel du peuple. Et je vous invite donc à lire les 8 premiers versets du chapitre 8 de Néhémie. Ce sera affiché, et si vous voulez, vous pouvez aussi le prendre dans vos Bibles. Néhémie 8, versets 1 à 8. Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Il demanda à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenait plein de personnes et à sa gauche plein d'autres. On fait grâce de tous les noms. Vous les aurez plus tard, vous les direz plus tard chez vous. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué et plein d'autres personnes, les Lévites, expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. La reconstruction de la muraille vient juste de s'achever et le peuple se rassemble. Est-ce que vous avez noté comment ils se rassemblent ? Au verset 1, ils se rassemblent comme un seul homme. On sent une unité dans ce peuple. Le peuple est uni parce qu'il a un désir commun. Et quel est ce désir ? Être à l'écoute de la loi de l'Éternel. C'est le désir qui habite l'ensemble du peuple à ce moment-là. Un désir commun à chacun des membres du peuple de l'Éternel. Ainsi, le premier jour du septième mois, d'après le verset 2, c'est-à-dire le 8 octobre 445 avant Jésus-Christ, précisément, le peuple est rassemblé pour écouter la loi de l'Éternel, apportée par Esdras. Il faut savoir que ce 8 octobre n'est pas une date comme les autres pour le peuple d'Israël. Dans la tradition juive, il s'agit du jour où on célèbre la fête des trompettes, ou la fête de la nouvelle lune, d'après Lévitique 23. Ce jour était un jour de repos, un jour d'offrande, de consécration particulière à l'Éternel pour le peuple. Et pour la petite histoire, cette fête correspond, dans le judaïsme actuel, à l'équivalent de notre nouvel an. Le peuple juif décide donc de commencer son année de la meilleure des manières, avec la loi de l'Éternel. J'espère que ce sera aussi notre cas dans quelques semaines. Après avoir travaillé dur pour la reconstruction matérielle de la muraille, le peuple décide de se remettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et à travers la lecture de la loi qui est faite par Esdras à ce moment-là, j'ai noté 4 conditions que ce texte nous enseigne pour que nous soyons nous-mêmes vraiment à l'écoute de la parole de Dieu et que nous puissions être en bénédiction et recevoir les effets de cette parole. 4 conditions. La première, on la retrouve dans les 2 premiers versets. J'ai déjà un peu abordé. C'est avoir le désir, tout simplement, d'écouter la parole de Dieu. Comme je l'ai déjà dit avant, le peuple de Dieu était uni avec ce même désir d'être à l'écoute de la parole. Rien dans le texte n'explique pourquoi ce désir habitait le peuple. On peut supposer que c'est tout simplement une œuvre du Saint-Esprit au sein du peuple, qui dirige les événements. C'est un travail de conviction de l'esprit dans les cœurs qui suscite ce désir. Et c'est important de noter que ce ne sont pas les leaders, Esdras ou Néhémie, qui ont décidé d'annoncer la loi. Non, c'est quelque chose qui est venu au sein du peuple. C'était un désir commun, une envie commune de se replonger dans la loi de l'Éternel. Et ce désir d'entendre la loi est la base d'un véritable renouveau spirituel au sein du peuple. Est-ce que le désir d'écouter la parole de Dieu t'habite aussi de la même manière aujourd'hui? Est-ce que tu as le désir d'être à l'écoute de la parole de Dieu aujourd'hui encore? Il m'est souvent arrivé en discutant du culte personnel avec les uns et les autres qu'on me demande s'il faut quand même lire la Bible quand on n'a pas envie. S'il faut la lire par tradition, de manière robotisée, comme un robot. J'ai un avis sur cette question. Mais plutôt que répondre à cette question, j'aimerais plutôt en poser une autre. Pourquoi le désir de lire la Bible peut s'étioler chez toi comme chez moi? Qu'est-ce qui fait que ce désir est moins intense peut-être dans ta vie, peut-être aujourd'hui? Cela peut être différentes choses. Peut-être un manque de repentance vis-à-vis de Dieu. Peut-être un domaine de ta vie en dehors du contrôle du Seigneur. Une vérité biblique avec laquelle tu as du mal, que tu rejettes même. Ou peut-être tout simplement une autre passion trop dévorante. Il y a plein de raisons. Mais posons-nous les bonnes questions. Au lieu de nous demander s'il faut lire la Bible quand même quand on a moins envie, cherchons plutôt à savoir ce que nous pouvons faire pour renouveler notre désir de nous plonger dans la parole. Le désir était renouvelé au sein du peuple. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour renouveler mon désir de lire la parole, d'être à l'écoute de la parole de Dieu? Deuxième condition, prendre le temps d'écouter la parole de Dieu. Pendant combien de temps Esdras a lu la loi au peuple? C'est écrit au verset 3. Personne ne veut répondre? 6 heures. Ce n'est pas une erreur. De l'aube jusqu'à midi. Soit l'équivalent de 6 heures de lecture de la loi. Donc, j'ai voulu faire un test. Et on va commencer, on va lire depuis Genèse pendant 6 heures. Avec vous. 6 heures de lecture de la loi. Et le plus remarquable, c'est qu'il est écrit que le peuple est resté attentif à la lecture de la loi. Dans notre société du zapping, où on nous dit qu'on a entre 10 et 15 minutes d'attention, c'est incroyable. Depuis le début de ma prédication, j'ai peut-être perdu déjà 2-3 personnes, voire plus, peut-être tous, j'espère pas. Non, 6 heures de lecture de la parole. Historiquement, il faut savoir qu'à la synagogue, on lisait à chaque sabbat l'équivalent de 5 à 7 chapitres de l'Ancien Testament, par plusieurs lecteurs différents. On sait aussi que dans l'Église primitive, la lecture publique de l'Ancien Testament et de certaines lettres de Paul avait une grande place. Paul recommande lui-même à Timothée de se consacrer à la lecture publique des Écritures, 1 Timothée 4:13. Dans les premiers siècles, le culte, donc culte évangélique, débutait à chaque fois par 4 lectures tirées des lois, de la loi, des prophètes, des écrits des apôtres, et des évangiles, donc les différents écrits de la Bible. Et peu à peu, ces différentes lectures assez longues de la parole de Dieu ont disparu au cours des siècles. Alors à l'époque, cette lecture publique de la parole était très importante, fondamentale, parce que beaucoup de monde ne savait pas lire, et encore moins posséder un exemplaire de la parole. La connaissance de ces chrétiens donc dépendait presque exclusivement de cette lecture publique de la loi et de la parole de Dieu. Le besoin est sans doute moins important aujourd'hui, puisque nous savons tous lire et que l'accès à la parole est très facile. On n'a pas de question à se poser si on a une Bible. J'en ai peut-être une dizaine à la maison, je ne sais pas combien vous en avez. On n'a pas de problème d'accès à la parole. Mais parfois, je me dis qu'une lecture publique plus suivie de la parole de Dieu ne serait peut-être pas une si mauvaise chose. Pourquoi? Parce que je constate que trop souvent, cette lecture publique continue et soutenue n'a pas été réellement remplacée dans nos foyers. Trop de chrétiens se contentent souvent d'une lecture homéopathique de la Bible, comme un simple feuillet de calendrier. Alors, j'ai rien contre les feuillets de calendrier, mais si c'est ça, ton unique point d'ancrage à la parole, je crois qu'il y a un manque, quelque chose qui ne va pas. L'une des décisions qui a été pour moi un fondement de ma vie chrétienne, peu après ma conversion, a été de prendre un rythme de lecture soutenu et régulier de la parole de Dieu. Ça a été tellement bénéfique pour moi. Et parfois, pourtant, j'entends dire, mais tu sais, j'ai pas le temps de lire la parole de Dieu. Et j'ai envie de répondre, mon œil. Mon œil. J'ai un travail qui me prend à peu près 8 heures, au moins, minimum, comme beaucoup d'entre vous. J'ai une famille de 3 enfants, bas âge, dont je dois m'occuper, comme beaucoup d'entre vous aussi ici. J'ai quelques responsabilités dans l'église qui me demandent du temps, comme beaucoup d'entre vous ici. Est-ce que je peux me présenter devant Dieu avec des excuses parce que j'ai un travail, parce que j'ai une famille, parce que j'ai une responsabilité dans l'église? Devant Dieu? Non. Je n'ai aucune excuse pour lui dire « Je n'ai pas le temps de me plonger dans ta parole. Je n'ai pas le temps pour mon culte personnel avec toi. » Le temps, je l'ai toujours. C'est juste une question d'organisation et de priorité dans ma vie. Uniquement. Arrêtons de dire « Nous n'avons pas le temps. » C'est un mensonge, rien d'autre. Ce n'est pas que nous n'avons pas le temps. C'est plus que nous ne prenons pas le temps. Sur autre chose, peut-être. Troisième condition, avoir une attitude d'écoute de la parole de Dieu. On le voit au verset 5, au verset 6. Verset 5, « Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir ce livre. Et à ce moment-là, tous se levèrent. » Lorsque le peuple voit Ezra s'ouvrir le livre, on voit que tout le monde se lève, puis se prosterne devant Dieu. Et d'ailleurs, se tenir debout est devenu une caractéristique du culte judaïque à la synagogue encore aujourd'hui. Les juifs sont debout quand ils lisent la parole. Le fait que ces détails nous aient été apportés prouve en tout cas qu'il y a quelque chose dans cette attitude qui est agréable aux yeux de Dieu. Pour le peuple, la loi qui est ouverte et lue n'est pas n'importe quel livre, un livre ordinaire. Et le respect et la joie dont le peuple fait preuve à ce moment-là devrait être un exemple pour nous, je pense. Le peuple s'est levé devant, sans doute, la loi de Moïse, le Pentateuque, les 5 premiers livres. Aujourd'hui, nous n'avons pas simplement 5 livres, on en a 66. Et des livres bien plus extraordinaires que les livres de la loi, comme les évangiles. Lorsque nous lisons ou l'entendons, est-ce que nous nous rendons bien compte que Dieu nous parle à travers sa parole? La Bible est la parole de Dieu, c'est ce que nous croyons. Et mérite donc une attitude d'écoute différente des autres livres. Le peuple juif s'en est rendu compte, et nous devons nous en rendre compte encore. Est-ce que j'ai une attitude d'écoute devant la parole de Dieu? Ça ressemble à quoi, ton moment avec la parole de Dieu? Est-ce que tu as ton téléphone ou ton PC juste à côté, prêt à bondir à n'importe quel appel ou mail reçu? Ou est-ce que tu rêvasses en lisant, et à la fin de ton chapitre, tu ne te souviens même pas du début du chapitre, mais c'est pas grave, j'ai lu quand même mon chapitre. Je crois que nous avons à renouveler, et je me parle à moi-même en premier, hein, je crois que nous avons à renouveler notre attitude d'écoute de la parole de Dieu. Nous devons avoir l'attitude qui va avec, pleine d'attention, de respect, de réflexion face à la parole de Dieu. Et quatrième condition pour vraiment profiter pleinement de la parole de Dieu, pour vraiment être à son écoute, que j'ai pu voir, c'est de chercher à comprendre le sens de la parole de Dieu. Ezra, c'est les Lévites qui l'aident pour l'enseignement de la loi, vise un but particulier. Et ce but, c'est la compréhension de ce qui est lu. Ils ne veulent pas lire pour lire, ils veulent lire pour être compris. C'est marqué à plusieurs reprises, et à la fin du verset 8 notamment, que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est le but. C'est une répétition incessante pendant tout le texte, la compréhension de la parole. On ne peut pas lire la Bible simplement comme un simple manuel de théorie, comme un roman ou je ne sais quoi. Nous avons besoin de lire la Bible pour la comprendre. Pourquoi ? pas pour la comprendre simplement intellectuellement, mais pour pouvoir la comprendre, pour l'intégrer dans nos vies, pour l'appliquer dans nos vies de tous les jours. Comme le disait Jules-Marcel Nicole, beaucoup lisent la parole de Dieu, mais peu l'étudient et cherchent à la comprendre. Et je crois que nous devons tous apprendre à étudier la parole de Dieu, à la comprendre pour mieux connaître notre Dieu, pour mieux connaître sa volonté pour chacun d'entre nous. Le peuple juif donc s'est rassemblé après la reconstruction de la muraille et a demandé avec beaucoup d'empressement que la loi soit lue. Les versets qui suivent, du verset 9 au verset 12, nous révèlent l'effet de la parole de Dieu. L'effet que la parole peut avoir si nous mettons dans les conditions optimum pour recevoir cette parole, en termes d'écoute, en termes de désir, de temps, d'attitude, de compréhension. Si nous avons ces conditions, alors la parole aura un effet dans nos vies. Je vous invite donc à lire du verset 9 au verset 12. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie le gouverneur, Esdras le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple, dirent à tous. Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Puis Esdras ajouta. À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. L'effet principal qu'on voit dans ce texte de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous pousse tout simplement à réagir, à une réaction dans nos vies. Ça paraît bête, mais quand on se met vraiment à l'écoute de la parole de Dieu, on ne peut pas rester indifférent à cette parole. Il y a un effet, il y a une réaction dans nos vies. Elle nous touche au plus profond de notre cœur. Suite à la lecture de la loi, on remarque deux réactions bien différentes au sein du peuple. Dans un premier temps, c'est la consternation, c'est les pleurs, les cris, la tristesse. La tristesse parce que conscient de son péché, conscient de la distance qui sépare le peuple de Dieu. Ces larmes que le peuple versait sont le fruit de l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. Ces larmes témoignent de la tristesse du peuple quand il entend la parole de Dieu et qu'il se rend compte, qu'il prend réellement conscience de son péché, de son infidélité. Ce n'est pas qu'une réaction émotionnelle, c'est quelque chose de profond au sein du cœur. C'est une réaction, en tout cas, qui est précieuse aux yeux de Dieu. Comme le dit Ésaïe 66, verset 2, « Voici sur qui je porterai un regard favorable, sur celui qui est humilié et qui a l'esprit abattu, celui qui respecte ma parole. » Dans un second temps, après le rappel par Néhémie et Esdras que ce jour est un jour de fête, un jour voulu de fête par Dieu, vous rappelez cette notion de nouvel an, un jour de joie, on voit que le peuple organise de grandes réjouissances, au verset 12. Le peuple pourra s'humilier devant Dieu à un autre moment, mais il ne fallait pas dénaturer ce premier jour voulu par Dieu comme un jour de fête, un jour de joie, un jour de réjouissance, de reconnaissance. Et à travers cette joie, je crois qu'on voit aussi que le peuple réalise à quel point Dieu est bon, tout simplement. Ces versets soulignent aussi que Dieu ne désire pas nous voir dans un continuel état de privation. Non, Dieu est un Dieu qui nous veut dans la joie aussi, dans la joie de le connaître, dans la joie d'être béni par lui. Il prend plaisir à nous voir joyeux. Et David l'exprime bien dans le psaume 28, verset 7. « L'Éternel est ma force, mon bouclier, en lui je me confie. Il vient à mon secours. » Et qu'est-ce qui se passe ?« Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. » Cette double réaction, reconnaître notre propre faiblesse, et nous réjouir en sachant que l'Éternel est bon pour chacun d'entre nous, qu'il est merveilleux. Cette double réaction ressemble à ce que nous devrions avoir comme réaction devant le sacrifice de Christ, au moment de notre conversion notamment. Une réaction de douleur, de tristesse, parce qu'à cause de moi, à cause de mon péché, le Fils a dû monter sur la croix. Mais une réaction de joie, de paix, de plénitude, parce qu'aujourd'hui, le salut m'est offert par grâce. Parce qu'aujourd'hui, mon péché ne repose plus sur moi, mais j'ai pu l'apporter à mon Dieu. Quelque part, si une de ces deux réactions n'est pas présente au moment de la conversion, peut-être de façon diffuse, pas forcément par des pleurs visuels, si une de ces deux réactions n'est pas là, c'est quelque chose qui a quelque chose qui ne va pas dans la conversion. C'est qu'on n'a pas réellement compris à quel point on peut être triste par rapport à notre péché, à quel point on peut être heureux que Dieu ait pris ce péché. Et une véritable écoute de la parole de Dieu, tout au long des jours, produira de telles réactions dans nos vies, je crois, pour nous rendre toujours mieux conscients de notre besoin de notre Sauveur, de l'état de notre cœur, de l'état de notre péché, et en même temps, renouveler notre consécration à notre Seigneur, parce qu'il est bon, parce qu'il est bienveillant pour nous. En conclusion, j'ai évoqué les réveils qui ont pu secouer l'histoire de l'Église à travers les siècles. Je crois que nous sommes nombreux à espérer, à prier pour de tels réveils de notre France aujourd'hui, surtout quand on voit où elle va. Ce réveil passe d'abord par une écoute renouvelée pour chacun d'entre nous de la parole de Dieu, à travers les conditions que j'ai pu citer, en termes de désir, de temps, de consécration. La parole de Dieu aura un effet, un impact dans nos vies. Elle ne pourra pas nous laisser indifférents. L'impact de nous laisser réagir. Et je vous invite à lire la suite du passage. On n'a pas le temps ce matin et j'ai aussi manqué de préparation. Mais jusqu'au verset 10, on voit d'autres effets. La parole de Dieu nous pousse à l'obéissance, à la repentance, à la louange, à nous souvenir de l'œuvre de Dieu, à la supplication envers Dieu, à nous engager aux côtés de Dieu. La parole de Dieu a un effet. J'espère qu'elle a un effet dans nos vies. Et je crois que c'est notre prière que nous puissions renouveler notre écoute de la parole et bénéficier de l'effet de cette parole dans nos vies. Je vous invite à prier ensemble. Oui Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est précieuse à tous nos cœurs, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que dans chacun de nos cœurs, tu puisses renouveler ce désir, cette envie de lire ta parole et d'être à son écoute, de nous mettre dans les conditions optimales pour que tu puisses nous parler à travers ta parole. Je te prie pour que dans chacune de nos vies, l'effet de ta parole puisse se faire ressentir, que nous puissions ne pas être indifférents, mais réagir en fonction de ce que toi tu veux, être à ton écoute vraiment dans toutes nos vies. Amen.